À voix nue. Cette semaine, Belinda la rencontre Denis Podalydès. Ce soir, être et devenir acteur. Bonsoir Denis Podalydès.
Bonsoir.
Merci d'être là à nouveau pour ce troisième épisode de votre À voix nue. Premier épisode, nous avons évoqué votre enfance à Versailles. Dans un deuxième épisode, vos années de propédeutique, vos années de formation, d'école, académique, puis théâtrale. En 1988, donc, vous sortez du conservatoire et vous êtes sur le marché du travail. Vous découvrez la dépendance de l'acteur aux autres, au désir des autres, des metteurs en scène notamment. Et c'est à ce moment que commence votre compagnonnage avec Christian Rist, acteur, metteur en scène et fondateur de la compagnie Studio Classique. C'est une étape importante, je crois, dans votre jeune vie d'acteur.
Oui. Et en sortant du conservatoire, j'ai eu le sentiment que ça allait pas marcher. J'attendais tout de Jean-Pierre Vincent. Il a prévu de monter plusieurs pièces de Musset. Moi, j'en travaillais, donc je postule à faire partie de cette équipe-là. Et ça ne se fait pas. Et donc là, j'ai été très peiné. Parallèlement à ça, j'ai été engagé pour une pièce, un Hernani de Victor Hugo, monté par un metteur en scène qui me remerciait au bout d'un mois et une semaine.
Pour quelle raison ?
Insuffisance. Mmh. Il m'avait auditionné 7 ou 8 fois. Il avait eu du mal à faire son choix et il me trouvait pas les épaules, en fait. D'ailleurs, quand il me dirigeait, il me disait « faut être Depardieu, faut être Depardieu ». Moi, je devais peser 53 kilos. J'étais vraiment un petit épi. Je tenais pas la route. Et donc, j'avais honte de ça, et donc j'ai téléphoné à mes amis pour leur dire que j'avais une méningite, qu'il fallait pas me voir. Je rappelle.
Pour justifier du fait que vous n'étiez pas dans cette pièce.
C'était le metteur en scène lui-même qui m'avait donné ce conseil-là, pour pas te griller dans le métier. Et donc, moi, je me sentais complètement grillé. J'avais une maîtrise de philo en vue, et je me suis réinscrit, j'ai fait ma réinscription. Et puis, j'avais fait un film en Grèce, qui est mon premier film, tourné par un Français, un film qui s'appelle Xenia, par un Français vivant à Athènes, un tournage assez épique dont j'ai fait un roman d'ailleurs. Et donc ce film m'avait plu, mais ne m'incitait pas à penser que je deviendrais un vrai acteur, quoi, et que c'était pas ma voix, et que ma voix était quand même peut-être du côté de l'enseignement. Donc après le conservatoire, suite à ces expériences un petit peu douloureuses, j'ai envisagé vraiment la reconversion. Et puis, Jean-Pierre Vincent, en fait, quand je l'ai su, d'ailleurs, ça m'a mis du baume au cœur, a parlé de moi à Christian Rist. C'est Christian qui m'a... Et dans une après-midi dont je garde un espèce de souvenir absolument idyllique, merveilleux, au Parc de Sceaux, Christian m'a auditionné pour le rôle de Célidan dans La Veuve de Corneille, qui reprenait, en fait, je devais reprendre le rôle de Jean-François Civadier. Et Christian, au bout de 10 minutes d'audition, me tape sur l'épaule et me dit « c'est bon, t'es engagé ». Et j'ai une des plus grandes joies de ma vie. Quand j'y repense encore, je crois que là, j'ai eu un moment de bonheur fulgurant quand il m'a dit ça. Parce que Christian Rist, dès premier contact, m'avait immensément plu, touché. Et on parlait beaucoup de lui parce que ce spectacle, La Veuve, était un spectacle phare. Notamment, il y avait 2 pages dans Libé. Alors moi, Libé, à ce moment-là, en théâtre, c'était mais plus que la Bible. Puis moi, je sais pas, j'étais très impressionné par les instances de reconnaissance, la critique, les
validations,
validation académique. Quoi. C'est ça signifiait vous en êtes ou vous n'en êtes pas. J'attendais comme ça, tout le destin frappait comme ça, soit on en est, on n'en est pas. Et donc Christian Rist avait été validé par Libération, donc c'était pas rien. Et en plus, le fait que je prenne un plaisir immense à faire cet exercice d'audition, qui était un exercice que je trouvais toujours angoissant, je ne faisais que ce que me demandait Christian. Puisque Jean-François Civadier l'avait joué, il me disait ce que faisait Jean-François. Et donc j'ai récupéré tout ce que faisait Jean-François. Et en fait, le fait de faire uniquement ce qu'a fait un autre, curieusement, ça m'aidait et je me trouvais moi-même dans cet exercice. Je m'y retrouvais totalement.
Un exercice d'imitation, presque.
Un exercice d'imitation. Et
ça vous a libéré de quoi ?
Il y avait eu cet échec auprès de Jean-Pierre Vincent, cet échec, enfin je voyais ça comme des échecs, dans Hernani, de valoir quelque chose. d'être digne de pouvoir jouer un rôle pour un metteur en scène important. Sinon, je me sentais condamné à retourner en deuxième division des acteurs. J'étais relégué, voilà. Et puis moi, j'avais quand même, j'aspirais à la grandeur, j'aspirais à des choses. J'ai des camarades comme ça qui, pourvu qu'ils jouent, tout allait bien. Ils auraient pu jouer dans des petites compagnies de dixième ordre, tant qu'ils jouaient, ça allait. Moi, non. Il me fallait des choses un peu relevées. Ça, c'était presque aux yeux de ma famille aussi. Je me disais, je peux pas déchoir. Je sais pas, est-ce que je me vivais comme un jeune aristocrate? Presque.
Et avec Christian Rist et ce travail que vous faites ensemble, vous dites vous vous sentir enfin pleinement engagé dans pleinement ce métier engagé. D'acteur. Parce vous faites que... le deuil complet de l'enseignement à ce moment-là.
À ce moment-là, d'ailleurs, c'est en fait une des années de formation aussi, parce que Christian avait une vision très comme de work in progress. Les mises en scène n'en étaient pas vraiment. C'était improvisé. On avait fait un Misanthrope, on a fait une Bérénice comme ça, où à chaque représentation, on réimprovisait tout. Et en fait, j'ai adoré ça parce que ça a développé un sens de l'autonomie de l'acteur en scène qui m'a énormément servi et en tant qu'acteur et en tant que metteur en scène. Christian, c'était un pédagogue, en fait, c'est ce que lui avait dit Strehler. Toi, tu es un didacte. C'était ça, Christian. Il lui fallait un sol, d'ailleurs, ce qu'il a eu des années après, a acheté un très beau sol qui me fascinait, un très beau bois qu'il avait fait construire. Et on était tous sur ce sol-là, en cercle, le texte au milieu et on travaille, sans savoir exactement ce qu'on va faire. Mais mené par son instinct, est-ce qu'il y a un instinct de lecteur? J'ai appris énormément aussi avec Christian à lire, tout simplement à lire les textes à voix haute ou à voix silencieuse. Par exemple, Christian était un lecteur rythmique incroyable. Il savait donner de la vitesse, ralentir. À quel endroit fallait changer du tout au tout? Ce que j'avais pas forcément appris au fil du temps. Mais il y avait un effet, c'est un effet que Christian m'apprenait, me dit là, tu vois, il faut arrêter comme si le rideau tombait. Fin de la pièce. Alors qu'on est à l'intérieur d'une réplique. Là, il faut vraiment que tu joues comme si toute la pièce était finie, là. Et ça m'a donné le sens de la rupture profonde. Et il avait ce sens de la structuration des textes. Ça, vraiment, alors là, je lui suis reconnaissant, c'est avec lui que j'ai appris ça. Et puis, il y avait une fraternité. Christian était un homme jeune, quand je l'ai rencontré. Il n'avait pas un passé énorme. Il avait un passé d'acteur, il avait tourné dans quelques films. Et son studio classique, c'était tout neuf. Et j'aimais beaucoup son idée. C'est un jour, il avait réuni des acteurs un peu au chômage. Il disait, bah, tous les sportifs, ils s'entraînent tous les jours dans une salle. Bah, moi, je vous propose que, en tant qu'acteur, on s'entraîne tous les jours. Ça s'appellera le studio classique. Et nos agrès, ce sont les textes classiques. Racine, Corneille, Molière. Et voilà. Et j'adorais ce rapport athlétique au texte. On prend des textes et on s'entraîne. Ça, j'aimais ça, le work in progress. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas forcément une fin en soi, c'est de travailler ensemble autour de ces textes. Et c'est ce qu'on a fait. On a lu énormément de choses avec Christian, en riant beaucoup. Et c'est une sorte de combustion. Je sens qu'il faut tout mettre dans le four. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu cette image de Bernard Palissy. Et c'était un inventeur la Renaissance, je crois, Bernard Palissy. Il a trouvé le secret de l'émail en fourrant tout et n'importe quoi dans le four. Il a tout mélangé. Presque des matières mangeables à de la pierre, à de la ferraille, du crottin, tout. Et il trouve le secret de l'émail avec tout ça.
C'est ça, être un acteur?
Et alors, voilà, j'ai toujours pensé que ça, cette image de Bernard Palissy inventant le secret de l'émail en fourrant tout et n'importe quoi dans son four, le métier d'acteur, on se sert absolument de tout. On peut être complètement charognard, c'est-à-dire de l'ordre de la hyène.
Le noble et se nourrir, et le pourri.
Le noble, le pourri, le solide, le liquide, l'extravagance, la pureté, n'importe quel livre, n'importe du tout, le spectacle de la rue, le vide intégral, la méditation, tout est bon. D'ailleurs, Jean Rochefort, je me rappelle de ça aussi, un portrait de Jean Rochefort de Marielle, qui disent que, en fait, leur éducation, ils la passaient à être assis et à regarder le spectacle du monde, à regarder comment les gens se comportent dans la rue, des petites scènes de rue, et je comprends tout à fait ça, je trouve ça très... Moi, je faisais pas tout à fait ça. Enfant, je traversais les rues dans mes imaginations, et en déroulant mon petit fil, et donc parfois, vraiment, j'avais rien vu de ce qui se passait au monde.
Et vous apprenez là à faire pour reprendre la phrase d'Antoine Vitesse, faire théâtre de tout.
Oui, avec Christian, oui.
Il y a dans votre métier d'acteur une part invisible, pour le public en tout cas, qui est la préparation du rôle. Quel est votre modus operandi? Comment est-ce que vous assimilez, vous avalez un personnage?
Moi d'abord, avant ça, il y a un culte des autres, et notamment du metteur en scène. Mon modus operandi, j'essaie qu'il change à chaque fois que je travaille avec d'autres personnes, que ce ne soit pas le même. Ma hantise, c'est de ramener toujours la même recette, quel que soit le rôle. J'ai vu beaucoup d'acteurs faire ça.
Quand vous dites que votre modus operandi diffère selon le metteur en scène, il n'est pas le même quand vous travaillez avec Ostermayer, quand vous travaillez avec Ivo Van Hove, pour citer deux metteurs en scène avec lesquels vous avez récemment travaillé.
Ça, c'est deux grands maîtres, donc forcément, qui ont un art très autonome de la mise en scène.
C'est quoi un art autonome?
C'est-à-dire que le geste du metteur en scène est indépendant de la pièce. Du côté vraiment de l'autonomie du metteur en scène, vous avez Bob Wilson. Même le texte peut apparaître secondaire. Ostermayer est plus du côté aussi, peut-être, tout en ayant développé un art autonome de metteur en scène, il est dans l'envie de lire une pièce et d'en représenter ce qu'il estime être une puissance objective de la pièce. Il y avait des metteurs en scène qui n'ont même plus du tout de Castellucci, il n'y a même plus de pièce. Il y a une création qui se fait directement sur le plateau. Et le texte peut être une composante même très secondaire. Alors, le maximum d'autonomie, ce serait du côté de Bob Wilson ou de Castellucci, c'est-à-dire la mise en scène est un art en soi. C'est pas l'art de mettre en scène telle pièce. Dans les années 70, on n'imagine pas qu'un metteur en scène puisse faire une œuvre indépendante. Pourtant, Artaud avait déjà parlé de ça. Artaud, c'est le premier qui rêve d'un théâtre, quand il parle du théâtre balinais.
Il structure les œuvres.
Où le fait théâtral, c'est pas la représentation d'une pièce, c'est la représentation de l'homme, pur. Sans texte, on s'en fout du texte. Le texte est une des composantes.
Et vous êtes d'accord avec ça?
C'est pas que je suis d'accord, mais c'est passionnant. C'est l'évolution d'un art.
Non, mais le fait que le théâtre soit la représentation de l'humain.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le théâtre, c'est pas simplement la représentation d'une pièce. Or, pendant des décennies, aux Français, dans l'image même populaire, la mise en scène, ce serait l'art de représenter Molière, de représenter Racine. C'est lié à un texte, c'est texto-centré, comme on dit. Voilà. Alors, vous avez des metteurs en scène qui se sont affranchis de du caractère sacro-saint du texte. C'est là, à partir de ce moment-là, mais même des planchons, Jean Villard, il le fait, mais sans trop le savoir. En inventant l'espace de Chaillot et l'espace d'Avignon, il invente une autonomie de la mise en scène.
Par le lieu?
Par la structure qui fait que d'un seul coup, les spectacles sont décentrés par rapport à ce qu'on attend. Les acteurs, dans ces grands espaces, les acteurs sont amenés à jouer autrement. Ça change le jeu. Et donc, moi, j'ai rêvé de ça. Je dois dire que j'ai rêvé de ces... Pour moi, le théâtre, c'était... même quand je rêvais de Jean-Louis Barrault, c'était associé à Jean-Louis Barrault en tant que metteur en scène.
Jean-Louis Barrault qui avait connu Artaud.
Qui avait connu Artaud, et c'est la période de sa vie qui m'a le plus fasciné.
Est-ce qu'il y a des rôles et des metteurs en scène qui ont été décisifs, qui vous ont permis de vous déployer, de poursuivre cette métamorphose?
Dans ceux que j'ai vus et dans ceux avec qui j'ai pu travailler. Alors dans ceux que j'ai vus, tous les metteurs en scène, Vitesse, Chéreau, Mnouchkine, tout ce théâtre des années 80, il y a une telle richesse sur les scènes que chaque spectacle est un espèce de choc émotionnel dont j'ai même du mal à me remettre. Je me rappelle de sortir quelquefois de le Richard II de Mnouchkine, j'en sortais, mais dans un état émotionnel tremblant. Le Mariage de Figaro de Jean-Pierre Vincent, les Coltesses de Chéreau, le Hamlet de Chéreau, mais c'était presque une souffrance tellement c'était des chocs. Les grandes mises, le Don Juan de la Salle.
Une souffrance.
Régie, Claude Régie.
Égotique ou parce que vous étiez acteur et
ça crée une souffrance parce que l'envie d'en être, l'envie de j'aurais eu envie de bondir sur les scènes et de jouer avec ces acteurs-là, dans ces décors-là, dans ces lumières-là. La découverte du HMI dans le Hamlet de Chéreau, mais j'ai des camarades que je connaissais un peu dans la vie, j'ai voyé sur scène, mais j'étais fou de jalousie. Je me tenais au fauteuil pour pas bondir en scène pratiquement. Ça a créé un désir de jeu. Les Dodine, les Russes qui arrivaient. Donc voilà. Alors ça, c'est les vitesses aussi, l'électre de vitesse à Chaillot, en nom de Dieu. Ou alors même les voir en vidéo, ça me rendait fou. Je crois que j'étais fou de
désir, en fait.
De désir, ouais. De jouer avec eux, pour eux. Donc là, les metteurs en scène, c'était ceux qui c'était des catalyseurs d'émotions et des catalyseurs de désir. Ils déchaînaient mon désir.
Et quand vous jouez La Nuit des Rois avec Ostermayer, c'est ce plaisir-là que vous avez ?
Oui, mais des années plus tard et avec la capacité d'assimiler et de ne pas me nier en tant qu'acteur. De ne pas fondre d'admiration et de disparaître. D'entrer dans un dialogue. Et en fait, j'ai appris ça avec Christian d'abord. Ce Christian n'était pas... Ce qui était génial avec Christian Ries, c'était pas l'espèce de metteur en scène admiré, adoré, devant lequel je me prosternerais. C'était une sorte de frère de création. Parce que lui, il m'entraînait à être autonome. Et donc ça, c'est décisif. Et donc c'est l'acteur autonome que je suis devenu grâce à Christian, qui a pu rencontrer des Fomenko après...
Piotr Fomenko, avec lequel vous travaillez en 2003
à la Comédie Française, dans la forêt d'Ostrovski, qui est devenu un auteur fétiche.
Quand vous rencontrez Piotr Fomenko, c'est aussi un choc.
Un énorme choc.
C'est un passage...
Alors, d'abord, la vision d'un spectacle, Guerre et Paix, au Théâtre de Sceaux.
Dont vous ne faites pas partie de la distribution.
Non, mais je vois Guerre et Paix, spectacle de 6 heures, monté avec sa compagnie, les Fomenki, l'atelier Piotr Fomenko, et qui est un spectacle d'une poésie théâtrale, un décalage par rapport au réel, une appréhension non réaliste et en même temps une espèce de vérité du jeu très intense.
Quand vous travaillez sous sa direction, il faut rappeler quand même qu'il ne s'exprime qu'en russe et qu'il est traduit en simultané.
Oui.
Comment de tels échanges, qui peuvent être quand même difficiles pour faire passer des émotions, des choses précises, finissent quand même par aboutir à quelque chose de significatif et de décisif pour vous et pour les autres acteurs qui jouent la forêt à ce moment-là?
Alors justement, je crois que la langue étrangère fait énormément partie de la séduction.
Et vous ne comprenez pas ce qu'il dit?
Eh bien en fait, on comprend. Au bout d'un moment, on comprend très bien. Il parle en russe, il ne parle que russe, il essaie de nous donner des intonations russes, mais en faisant ça, il nous exporte, si je peux dire. Il nous emmène dans ce que ce théâtre a d'oriental. Le théâtre d'Ostrovski, qu'on connaît surtout comme une sorte de prédécesseur de Tchekhov, c'est un Tchekhov, mais beaucoup plus sauvage, comme s'il était plus oriental, comme s'il venait encore plus loin, presque de l'Oural, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il a écrit à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et les pièces sont ou des pièces moscovites, ou des pièces de Saint-Pétersbourg, ou des pièces de la Volga. Bon.
Vous aimez jouer Tchekhov? Avant de jouer Ostrovski.
Ouais, je connais pas un acteur qui n'aime pas jouer Tchekhov.
Non, c'est ce que j'allais dire.
Ça, je connais pas. Donc moi, non, j'ai joué Platonov sous la direction de Jacques Lassalle et c'est le seul Tchekhov que j'ai joué, mais avec un plaisir. J'ai joué Ostrovski, qui est un auteur très différent. Et moi, je voudrais travailler à ce qu'on découvre plus. C'est 50 pièces. C'est un continent quasi shakespearien et qui est pratiquement totalement ignoré, à part des grands metteurs en scène. On n'a pas cité Bernard Sobel, mais Sobel fait partie de ces grands découvreurs de textes. Il a monté beaucoup de pièces d'Ostrovski, il les a montées très très brillamment. Mais c'est un auteur mal aimé, mal connu, pas assez populaire, alors que ça n'est que ça. C'est un auteur ultra populaire. Et bon, c'est vrai que c'est Fomenko qui, moi, me l'a donné. J'en avais déjà lu pourtant avant, mais Fomenko nous a instruits aussi physiquement. Il y avait une chorégraphe qui était là, non seulement, pas simplement pour qu'on danse, mais même pour bouger, pour se tenir en scène. L'attitude, c'était une dimension très importante, c'est l'attitude. Et j'ai énormément de mal et à ne pas y penser après quand je travaille. Je pense l'attitude, je regarde. Et
depuis...
Un acteur dont l'attitude n'est pas pour moi clair en scène, n'est pas net, n'est pas pensé, il y a quelque chose qui me gêne, qui me manque. Et les grands acteurs ont une façon, une attitude en scène, un geste. Alors parfois c'est venu naturellement au fil du temps, mais parfois il y a un travail du geste, un travail le pli de la robe, le pli du manteau, la façon dont on bouge sur scène. J'aime qu'elle soit densifiée, qu'elle soit pensée, structurée. chorégraphié. Et cette chorégraphe, qui était géniale, nous faisait travailler. Parfois, j'étais en équilibre sur un pied. Enfin, j'avais là. Il y a des acteurs qui supportent pas ça. Alors, on n'est pas là pour danser, on n'est pas là pour être des sculptures sur scène. Et elle, tout ça était, et notamment dans Guerre et Paix, c'était incroyable. Il y avait des sorties de scène qui étaient très belles, où il y avait des acteurs, les acteurs de la scène d'après, emmenaient sur leurs épaules les acteurs de la scène d'avant comme si c'était des statues. Mmh. Les autres se rigidifiaient et ils sortaient pendant que d'autres acteurs apparaissaient. Et je trouvais que ce statut physique des acteurs donnait et au personnage et à la pièce une matérialité nouvelle.
Alors, on a parlé beaucoup de théâtre, essentiellement de théâtre, et le cinéma de Denis Podalydès, puisque vous faites tout autant de films que de pièces. Vous êtes un acteur de théâtre, mais aussi de cinéma. Est-ce qu'il y a, bien sûr, il y a l'expérience des films avec votre frère, Bruno. Est-ce qu'il y a dans le cinéma des moments aussi essentiels, aussi structurants que dans le théâtre pour vous?
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. J'adore le cinéma. La question qu'on pose tout le temps à quelqu'un qui fait du cinéma et du théâtre, c'est lequel des deux préférez-vous? Et la réponse, pour moi, la plus évidente, c'est aucun des deux. Les deux sont... Je fais mon métier, de même que j'ajoute à ça la lecture publique et l'enregistrement de textes. Pour moi, voilà, c'est quatre théâtre, cinéma, lecture publique, lecture enregistrée. Et ben, c'est quatre composantes. Je souffrirais si j'avais à en supprimer une. Et le fait de passer du théâtre au cinéma, c'est capital. Alors le cinéma, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte d'autres équipes, il m'apporte d'autres lieux, un autre rythme de travail, et de jouer sur des claviers, le clavier du visage par exemple, le clavier d'un geste de main, le clavier d'une intonation douce, d'une toute petite respiration. Au cinéma, ça peut devenir significatif. Vous battez d'une paupière et ça peut dire quelque chose. Vous détournez d'un tout petit peu le visage et c'est une action dramatique. Donc c'est le cinéma, vous intensifie votre clavier. Pour peu que vous travaillez avec des grands auteurs, des grands cinéastes, ben c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. Mais un acteur n'aspire qu'aux autres mondes, toujours. Donc moi, j'aime m'engouffrer comme ça dans une aventure cinématographique. Tourner un travelling, par exemple. Je sais pas, vous êtes en vélo, j'ai fait des plans comme ça. J'adore ça. Ou en scooter, j'ai fait ça. Vous tournez, puis vous roulez avec un vélo et on vous filme et il se passe quelque chose.
Il me semble que si c'est plus ludique, presque.
Le rythme cinématographique fait tendant à faire des acteurs des enfants, puisqu'on s'occupe de vous, on vous donne à manger, on va vous chercher chez vous.
Ah, ça, sur les tournages.
Sur les tournages, tout ça. Il y a quelque chose qui est très, il y a une déresponsabilisation qui est très, très grande, dont il faut évidemment toujours se méfier, parce qu'on pourrait passer sa vie comme ça, être comme dans un berceau, aller de berceau en berceau. Et puis on vous sort juste le temps de la scène, c'est toujours court, un temps de travail au cinéma est toujours tellement court par rapport au temps de travail théâtral, 6 heures de répétition au théâtre, mais l'intensité est très grande au cinéma. Il y a des plans qui peuvent durer 30 secondes, voire moins, qui sont d'une intensité émotionnelle, physique, cérébrale, tout aussi intense que 5 heures de répétition. C'est nerveusement, le cinéma, c'est une autre affaire. C'est parfois presque plus douloureux. Il y a des acteurs de théâtre qui en font l'expérience à leur corps défendant, qui pensent que c'est très facile, qui font pas de cinéma, et puis quand on découvre le cinéma, on se rend compte que de l'action de prendre son verre, boire, dire une phrase, se tourner ensuite et puis reposer le verre, eh ben ça peut devenir un enfer. On confond tout. Le moment où on dit action au cinéma est un moment très particulier, c'est comme si l'espace était traversé de d'autres fluides. Et l'air est résistant, un objet est plus lourd, une phrase peine à sortir de la bouche, vos yeux vous piquent. C'est très curieux le cinéma pour ça. Ça transforme le temps d'une prise, votre corps est légèrement transformé. Et par exemple, il y a plein de petites choses qui en rendent compte, c'est-à-dire si vous ne savez pas bien votre texte, eh bien vous le savez parfaitement. Quand vous répétez, puis soudain on dit action, et hop, ça se grippe. La mémoire se grippe. vous avez chaud à la tête soudain. Pourquoi ? On dit couper, vous retrouvez votre corps d'avant. Le cinéma, c'est physiquement, nerveusement, autre chose que le théâtre. C'est très curieux. Mais il faut vraiment tous les acteurs de cinéma le savent, ça. Quand vous faites du cinéma, vous faites plein de lapsus.
Le cinéma, c'est nerveux. Le théâtre, ce serait physique.
Musculaire, oui. Ça fait travailler le muscle, même si aussi c'est nerveux. Comme les vibrations au cinéma, c'est des choses beaucoup plus... on est dans la logique des fluides, je ne sais pas comment mieux dire, alors qu'au théâtre, on est dans une logique spatiale, de grand espace, d'espace dans lequel on évolue. Tandis qu'au cinéma, tout est découpé. Vous reprenez un plan quelquefois de une minute, vous le reprenez 10 fois. Finalement, ça fait une durée de jeu très longue, mais très découpée, très saucissonnée. Vous n'avez pas eu le temps de vous déployer physiquement. Tandis qu'au théâtre, vous commencez à jouer une pièce. Il y a un emballement, naturel du corps. Le corps s'échauffe, tandis qu'au cinéma, on s'arrête, on s'arrête, ça recommence, ça s'arrête. On attend 1 heure, on recommence vite, on enchaîne 5 prises, on s'arrête. Et quelquefois dans un espace un peu comme celui-là, un peu confiné, vous avez chaud. Ou alors dehors, vous avez froid, il y a de la circulation. Vous pouvez rien contre ça. Au cinéma, un jour, j'ai pris une leçon de cinéma. Je me rappelle 2 acteurs à qui je pense toujours quand au cinéma, je m'énerve. Parce que parfois au cinéma, je m'énerve. Parce qu'il fait froid, je suis fatigué, je m'énerve. Il y a quelque chose en moi qui rentre en ébullition. Il faut que j'aille au théâtre le soir. Et on attend la lumière, on attend qu'un nuage s'en aille ou qu'un nuage vienne. Il y a une perceuse dans le fond. Tout ça me porte sur les nerfs. Et en fait, c'est tout à fait normal. Le cinéma, c'est l'art il faut être un esprit stoïcien. C'est-à-dire les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui ne dépendent pas de nous, eh ben, faut les laisser agir. On s'en fout. C'est pas de notre ressort. Faut attendre. Et par contre, les choses qui dépendent de nous, convoquer l'émotion au bon moment, etc., ça, c'est notre travail.
Merci, Denis Podalydès. Demain, nous évoquerons votre parcours de metteur en scène, mais aussi de scénariste au cinéma et d'écrivain, puisque vous aimez varier, croiser les genres, sans doute aussi repousser l'ennui. À demain, donc, pour ce 4e épisode d'Avoinu. Bonne soirée à tous sur
Bonne
France
soirée.
Culture.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Belindola avec Denis Podalydès. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.